Pyrénées à l'Alsace ce matin. Des orages risquent encore d'éclater au bord de la Méditerranée. C'est plus calme dans le quart nord-ouest avec des éclaircies en Bretagne, en Normandie, en Île-de-France. Un peu de soleil le long de l'Atlantique cet après-midi. 2 degrés au minimum à Rennes ce matin, 14 en Corse. Il fait 9 à Paris, à Bordeaux et à Lyon.
Vous écoutez Radio Classique, très bon réveil. Il est tout juste 6 heures.
La matinale écho de Radio Classique avec Stéphane Pedrazzi.
Et Virginie Fulpin pour le premier journal.
Œil pour œil, dent pour dent, la France réplique à l'Algérie. 12 fonctionnaires français sont expulsés d'Algérie. La France rappelle son ambassadeur et renvoie 12 agents algériens. Le parquet antiterroriste est saisi après les attaques contre 9 prisons en France. Les agents pénitentiaires s'inquiètent. Et puis on ne boit plus de vin, en tout cas de moins en moins. Le marché au plus bas depuis 1961 et les droits de douane américains ne vont rien arranger.
De plus en plus de Français payent l'impôt sur la fortune immobilière. Il va rapporter 2,2 milliards d'euros au titre de l'année 2024. On y revient avec Pierre Pilet dans un petit quart d'heure. La France décide de rendre coup pour coup à l'Algérie.
C'est ce qu'on appelle la réciprocité. Emmanuel Macron rappelle l'ambassadeur de France en Algérie et expulse 12 agents algériens du territoire. 12, comme le nombre de fonctionnaires français renvoyés d'Algérie hier. Pendant un moment, la France a opté pour la stratégie de l'apaisement. Maintenant, elle accuse l'Algérie d'être responsable de la dégradation brutale des relations et elle choisit la fermeté, Lauriane Toulmont.
Dans 48 heures, l'ambassadeur de France en Algérie sera de retour sur le sol français.
C'est une mesure de protestation, d'opposition, si l'on peut dire, à la mesure qui a été prise par l'Algérie et qui est très regrettable parce qu'elle compromet le dialogue que nous avions réinitié.
Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, dans le JT de 20h sur TF1 hier soir.
Les autorités algériennes ont fait le choix de l'escalade. Et donc, nous répliquons avec fermeté, avec la plus stricte réciprocité.
Devenu la bête noire de l'Algérie, le ministre de l'Intérieur était, lui, quelques minutes plus tôt sur CNews, Bruno Retailleau.
La fermeté, je l'ai d'abord prônée seul un peu dans le désert. J'ai toujours pensé que avec l'Algérie, nous devions poser un rapport de force. Il est inacceptable que la France soit un terrain de jeu pour les services algériens.
Quid des deux sujets dits irritants, selon les mots de la diplomatie française? D'abord, l'immigration. La France entend expulser une soixantaine d'Algériens. L'Algérie pourrait bloquer leur renvoi en refusant de délivrer des laissez-passer consulaires. Enfin, le sort de Boualem Sansal est en suspens. Âgé et malade, l'écrivain franco-algérien est toujours incarcéré en Algérie sous le coup d'une condamnation à 5 ans de prison.
Et les deux filles de Boualem Sansal appellent Emmanuel Macron à obtenir sa libération au plus vite. Elles ont fait paraître une tribune sur le site du Figaro. Hier, elles qualifient cette demande faite au président de dernier élan d'espoir. C'est du jamais vu en France. 9 prisons attaquées depuis dimanche, des voitures incendiées, des tirs à l'arme de guerre, des tags mystérieux. Le parquet antiterroriste s'est saisi de l'affaire. Aucune piste n'est écartée pour l'instant. Le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, s'est rendu hier à la prison de Toulon, la Farlède, où il a tenté de rassurer des agents pénitentiaires forcément inquiets, Charles Ducrot.
Les tirs à l'arme automatique à plus de 10 reprises ont troué et brisé les vitres de cette prison de Toulon où s'est rendu le garde des Sceaux. Gérald Darmanin évoque un acte terroriste visant à déstabiliser l'État, cite des menaces perpétrées à l'encontre des prisons de Vendin-le-Vielle et Condé-sur-Sarthe, récemment placées haute sécurité pour accueillir les 100 narcotrafiquants les plus dangereux. Une mesure qui fait sans doute peur, souligne le ministre de l'Intérieur, avant de nommément citer Mohamed Amra après son évasion sanglante d'Incarville l'an dernier. Vous pouvez le remercier, déclare le ministre, comme pour envoyer un message. L'enquête du parquet national antiterroriste doit maintenant déterminer la nature de cette attaque coordonnée inédite. L'origine d'un sigle, DDPF, en peinture noire, pour droit des prisonniers français, un slogan identifié dans certaines menaces émanant de mouvements radicaux d'ultra-gauche. Est-ce une revendication? La signature de groupuscules agissant sous les ordres d'une organisation liée au narcotrafic? Aucune piste n'est écartée à ce stade.
Des policiers et des gendarmes sont d'ores et déjà mobilisés autour des prisons pour assurer la sécurité des agents pénitentiaires. Wilfried Funk, le secrétaire général du syndicat UFAPUNSA, redoute d'être au début d'une offensive encore plus conséquente et demande des actes.
Aujourd'hui, la crainte, c'est surtout que l'organisation qui est derrière les attaques de la nuit dernière finalement continue à pouvoir agir en toute impunité. La crainte également, c'est que on sait que de toute façon, on n'est pas en position de force. Il y a 82 000 détenus pour environ 30 000 personnels. Donc voilà, vous avez vite fait le ratio en termes de rapport de force. Donc aujourd'hui, il est important que le gouvernement prennent le sujet de la prison à bras-le-corps. La prison est malade depuis plus de 40 ans. Effectivement, les personnels pénitentiaires sont des représentants de l'État, de son autorité, et aujourd'hui, ils ont besoin du soutien du gouvernement pour soutenir leur action au sein des établissements.
Pierre Palmade va sortir de prison ce matin. L'humoriste a obtenu un aménagement de sa peine et va être libéré sous bracelet électronique. Il avait été condamné à 2 ans de prison ferme, coupable de blessures involontaires sur une famille après un accident de la route qu'il a provoqué sous l'emprise de stupéfiants. La lutte contre le narcotrafic à l'échelle européenne. Les forces de l'ordre ont mené des raids sans précédent contre 4 groupes criminels organisés hier. Plus de 200 arrestations coordonnées dans 5 pays européens, dont la Turquie.
Le football français dans le flou le plus total.
Alors, pas sur le terrain. Le PSG est en demi-finale de la Ligue des Champions. Les Parisiens se sont fait un peu peur. Hier soir, battus 3-2 par Aston Villa en quart de finale retour. Mais comme ils avaient gagné 3-1 à l'aller, ça passe. Non, le problème n'est pas sur le terrain, mais sur les écrans. La Ligue de football professionnel est le principal diffuseur de la Ligue 1 au bord de la rupture. Les patrons des clubs veulent rompre le contrat avec DAZN en fin de saison. Mais la plateforme britannique n'accepte pas de séparation à l'amiable. Et le foot français est une fois encore au bord du précipice, Chloé Sénard.
Le contrat entre la Ligue de football professionnel et DAZN devait aller jusqu'en 2029, mais ça n'ira sûrement pas jusque-là. Le conseil d'administration de la LFP a proposé aux diffuseurs de la Ligue 1 de payer 140 millions d'euros pour la fin de cette saison et une indemnité entre 110 et 125 millions pour la suivante. Une proposition qui ne convient pas à DAZN car il réclame à la LFP devant les tribunaux 573 millions d'euros pour manquement observé et tromperie sur la marchandise. Le diffuseur critique le manque de coopération de certains clubs pour mettre en valeur le produit Ligue 1. DAZN stagne à environ 500 000 abonnés contre un objectif affiché d'1,5 million pour décembre 2025. Mais ce qui inquiète le plus les amateurs de foot français, c'est où vont-ils pouvoir regarder les matchs en cas de rupture définitive. L'idée de la LFP de lancer sa propre chaîne pourrait être à nouveau discutée, mais l'option à court terme impliquerait de faire une croix sur les droits apportés par un diffuseur externe. L'autre option serait de relancer un appel d'offres avec un choix assez limité, Canal+, préférant se concentrer sur la Ligue des Champions.
Merci Chloé Sénard. Les clubs de foot s'inquiètent pour leur budget, comme François Bayrou s'inquiète pour celui de la France. Le Premier ministre a réuni hier son premier comité d'alerte sur les finances publiques. Il diagnostique une situation intolérable. Il alerte les Français sur le piège de la dette. Pour François Bayrou, la France ne travaille pas assez, ne produit pas assez. Sans surprise, Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, n'est pas d'accord sur le diagnostic.
Le déficit explose et ça n'est pas parce que les dépenses augmentent, c'est parce que les recettes baissent. Le déficit commercial n'a jamais été aussi élevé. Notre industrie va très mal et la consommation baisse parce que les salaires ont baissé. Voilà le diagnostic sur lequel il faut travailler. Le problème, c'est que le gouvernement a un tabou, c'est celui des recettes, c'est celui de mettre à contribution celles et ceux qui ont le plus d'argent et il refuse d'augmenter les impôts pour les plus aisés qui ont très largement bénéficier des largesses de la politique de l'offre d'Emmanuel Macron.
Sophie Binet répondait à Zoé Pallier. La Charente, sous tutelle, le conseil départemental de Charente n'a pas réussi à voter son budget 2025. À partir d'aujourd'hui, il est donc mis sous tutelle préfectorale, ce qui est une situation extrêmement rare pour une collectivité de cette taille.
Il est 6h08, encore un petit peu tôt pour un premier verre de vin. Sachez que la consommation est au plus bas depuis 1961.
Elle a encore reculé en 2024, moins 3,3% par rapport à l'année précédente. D'après l'Organisation internationale du vin, les habitudes des consommateurs changent, certes, mais il y a aussi l'incertitude économique qui joue. Et la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump et ses droits de douane ne va rien arranger. Marie-Dominique Saint-Martin, la responsable export des vignerons Unimédoc, sait qu'il faut se réinventer. Voilà pourquoi elle est en ce moment à un salon du vin au Japon.
Nous, on n'était pas du tout fort sur les États-Unis. Par contre, c'est vrai que c'était un marché sur lequel on s'était dit, bon, on va essayer de se développer. Du coup, quand on a vu les conditions, on s'est dit, ça sert à rien. Autant continuer à faire des efforts et en faire un peu plus sur le marché japonais. Pour ceux qui avaient peut-être pas trop misé sur ce marché-là et qui avaient beaucoup misé sur le marché des États-Unis, c'est pas le marché japonais qui va absorber tout ce qui pouvait se faire sur le marché américain, je pense. Ça peut aider à ne pas perdre l'espoir en attendant.
Des propos recueillis par Nina Valette. La Chine ne lâche rien face aux États-Unis. Elle refuse la livraison d'avions commandés à Boeing et la Poste de Hong Kong suspend les envois de colis vers les États-Unis. La Chine qui annonce une croissance de 5,4% au premier trimestre, plus élevée que prévu. Comment rendre compte de ce qui se passe sur le terrain quand les journalistes sont pris pour cible? Depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël, près de 200 journalistes ont été tués à Gaza. Un rassemblement est organisé à Paris en fin de journée par les principaux syndicats de journalistes pour exprimer leur solidarité. Jonathan Dagher, le chef du bureau Moyen-Orient de Reporters sans frontières, accuse l'armée israélienne de viser les journalistes.
On a eu beaucoup de crimes qui ont été commis contre les journalistes pendant qu'ils avaient leur caméra à la main. Le fait de mettre un gilet, un casque marqué presse, ça doit protéger les journalistes partout dans le monde. Mais malheureusement, ça les transforme en cibles. Au point où parfois, quand ils veulent se réfugier auprès, par exemple, des voisins ou d'autres familles, les gens ont peur des journalistes. Parce que même les gens à Gaza pensent que les journalistes sont des cibles. Et les chiffres le montrent. Quand on parle de au moins 43 parmi ces 200 journalistes tués pour lesquels on sait qu'ils étaient soit en train de travailler ou ils avaient reçu des menaces ou il y a eu des frappes par drone directement sur l'endroit où ils étaient. Alors là, on peut affirmer en fait qu'il s'agit d'un ciblage. Le but, c'est d'empêcher l'information de sortir.
Jonathan Dagher répondait à Lucie Dupressoir. On lit moins aujourd'hui, on vous en a déjà beaucoup parlé. Et quand on achète un livre, c'est de plus en plus souvent un livre d'occasion, 20% du marché. Le problème pour les auteurs, c'est qu'ils ne sont pas rétribués sur ce marché. Emmanuel Macron propose d'étendre les droits d'auteur aux livres d'occasion. Séverine Weiss, la présidente du Conseil permanent des écrivains, verrait bien une sorte de redevance demandée aux plateformes de vente en ligne.
On a un préjudice dans notre rémunération. Il faut trouver un principe de compensation, comme on a pu le faire pour le droit de prêt en bibliothèque, par exemple, ou la copie privée. Il faut agir maintenant parce que ce sont des processus longs. Le prix moyen du livre d'occasion, il est de 4 euros. Bon, si le livre 4 euros, il augmente de quelques centimes, c'est pas incroyable. On est simplement sur une contribution qui est une forme de redevance des grandes plateformes pour compenser le préjudice subi avec les ventes de livres d'occasion. L'objectif n'est absolument pas de pénaliser le lecteur.
Séverine Weiss au micro de Servane de Pastre.
Merci beaucoup, c'était le journal de Virginie Fulpin. Prochain journal 6h30, ce sera avec Charles Bonner. Dans 3 minutes, l'invité de Comment j'ai réussi, Mathieu Lefèvre, PDG de Waga Énergie. Il récolte, il récupère le gaz des décharges pour le transformer en méthane. À 6h20, dans les classiques de l'économie, Natacha Valla nous parlera de l'économie de l'enfance. Pourquoi est-ce que les États ont intérêt à investir dans l'enfance? C'est un investissement à long terme, mais il est indispensable, nous expliquera Natacha Valla. Et puis à 7h15 ce matin, Bertrand Dumazy, le PDG d'Edenred, sera l'invité des Voix de l'économie. 6h12 pratiquement sur Radio Classique.
Bonjour, c'est Pauline Lambert. Pas besoin d'être menu ni mince pour danser un menuet. Il vous suffit de faire comme Monsieur Jourdain chez Molière, de faire semblant. Prenez une musique à trois temps, au rythme assez marqué, des percussions colorées aussi, prenez un maître à danser et c'est parti.
14h30, 17h, Tempo, avec Pauline Lambert sur Radio Classique.
Union des coopératives agricoles françaises, Invivo s'engage pour accélérer la transition agroalimentaire en déployant des solutions innovantes et responsables au service des agriculteurs. Retrouvez Fabrice Lundy dans Invivo, l'innovation agricole en question, chaque jeudi à 7h29 sur Radio Classique.
La matinale écho de Radio Classique avec Stéphane Pedrazzi.
Et à la une de l'économie, un objectif de 40 milliards d'euros d'économie dès l'an prochain. Le gouvernement veut réduire les dépenses de 6% d'ici 2029. Présentation hier par le Premier ministre François Bayrou. Les parlementaires sont invités à faire des propositions avant la rentrée et la préparation officielle du budget 2026. Le foot français est-il menacé par une nouvelle crise financière? La Ligue de football professionnel et le Britannique DAZN, principal diffuseur de la Ligue 1, n'ont pas réussi à se mettre d'accord malgré une médiation organisé par le tribunal de commerce. Bras de fer qui n'est pas sans rappeler le scandale de Mediapro qui avait plongé les clubs de foot dans une situation financière très tendue. Après les puces électroniques, Donald Trump vise désormais le secteur de la pharmacie. Le président américain veut faire baisser le prix des médicaments. Il ouvre une enquête sur les importations de produits pharmaceutiques aux États-Unis. De leur côté, les 32 plus grands laboratoires mondiaux ont envoyé un courrier à la présidente de la Commission européenne avec des conditions pour rester implantés en Europe malgré les droits de douane qui semble se profiler aux États-Unis. 2 milliards 200 millions d'euros, c'est ce que doit rapporter l'impôt sur la fortune immobilière au titre de l'année 2024. Il est en progression de 11% par rapport à 2023. C'est un niveau inédit depuis sa mise en place. Bonjour Pierre Pilet.
Bonjour Stéphane.
C'est le fait économique du jour. Il y a de plus en plus de foyers français qui payent cet impôt.
Près de 186 000 foyers qui payent donc cet impôt sur la fortune immobilière. Environ 10 000 de plus par rapport à 2023. C'est ce qu'indique la Direction générale des des finances publiques. Dans le détail, le patrimoine net moyen déclaré par foyer se situe autour de 2 500 000 euros et gagne 2% sur un an. En hausse aussi les dons, plus 6%, ils approchent les 200 millions d'euros. Sous condition, ils peuvent donner droit à une réduction d'impôt. Près de la moitié des foyers imposés se trouvent en Île-de-France. Alors certes, c'est un niveau record, mais l'IFI, cet impôt sur la fortune immobilière, rapporte moins que son prédécesseur, l'impôt sur la fortune. Et c'est près de 5 milliards d'euros collectés en 2017. L'ISF prenait aussi en compte les biens mobiliers. Le ministère de l'économie affirme de son côté qu'il travaille sur une contribution des hauts patrimoines pour lutter contre la suroptimisation fiscale.
Merci beaucoup Pierre Pilet. À 6h50 tout à l'heure, le chiffre du jour, 3%, c'est le taux des crédits immobiliers pour un bon dossier sur une durée de 20 ans. On était pratiquement à 4,5% il y a un an, un peu plus d'un an. Est-ce que la nouvelle baisse des taux de la Banque Centrale Européenne attendue cette semaine va encore faire baisser les taux des crédits immobiliers? Réponse juste avant le journal de 7h. Ce sera avec Ludovic Usieux, fondateur d'Artemis Courtage. 6h15 sur Radio Classique, tout de suite l'invité de Comment j'ai réussi.
Avec Natran, opérateur national de transport de gaz.
Bonjour Mathieu Lefèvre.
Bonjour.
Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le PDG de Waga Energy. Vous avez développé un système qui permet de récupérer les gaz émis par les décharges et le transformer en biométhane, qui est un substitut au gaz naturel. Comment est-ce que ça fonctionne à la fois en termes de captage et en termes de transformation du gaz ?
Alors bonjour, effectivement Waga Energy, que j'ai fondé avec Nicolas Paget et Guénel Prince il y a une dizaine d'années, a cet objectif de lutter contre le changement climatique et d'accélérer la transition énergétique. En récupérant ce gaz qui est spontanément produit par le stockage de nos ordures ménagères, on l'épure à travers une technologie de rupture qu'on a appelée la Waga Box pour en produire un biométhane qui est pur, qui est le substitut renouvelable du gaz naturel. Donc on passe en fait ce gaz impur à travers une usine à gaz qui couple une séparation par membrane, une distillation cryogénique, et on en produit un méthane pur qu'on va pouvoir injecter dans les réseaux de gaz naturel.
Et comment est-ce que vous récupérez ce gaz? Est-ce qu'il y a un système de bâche, une sorte de couvercle qu'on pose au-dessus des décharges, ou est-ce que vous allez le puiser dans le sol avant même qu'il s'évapore?
Alors, ce métier, c'est le métier des grands opérateurs de déchets comme Veolia, Suez, etc. Sur les sites de stockage des déchets, il y a effectivement un système de collecte et de captage du gaz où on va pouvoir aspirer la production spontanée en fait des bactéries. Ce gaz ensuite est véhiculé à travers ce système vers cette usine à gaz, la Waga Box, pour être épuré.
Les émissions de méthane dans les décharges contribuent évidemment au réchauffement climatique. Potentiellement, combien de tonnes de gaz à effet de serre pourraient être capturées avec ce système et réinjectées dans notre réseau de gaz de ville notamment ?
Alors, ce sont des millions et des millions de tonnes. Effectivement, le méthane est un très puissant gaz à effet de serre. Sur 20 ans, il a 84 fois le pouvoir de réchauffement du dioxyde de carbone. Donc, c'est une priorité absolue. Waga Energy, rien que l'année dernière, c'est 142 000 tonnes de CO2 évitées par la substitution du gaz fossile par ce gaz renouvelable. Il faut savoir que l'humanité, c'est 2 milliards de tonnes de déchets chaque année qui sont stockées dans ces sites et qui sont un très gros contributeur en termes d'émissions.
C'est un marché considérable.
C'est considérable. Le changement climatique, 30 à 40% est dû aux émissions de méthane. Et dans ces émissions de méthane, le stockage des déchets, c'est plus de 15%.
Et c'est vrai qu'on parle souvent du CO2, mais le méthane est beaucoup plus puissant en termes de réchauffement climatique. Qui sont vos clients? Vous avez mentionné Veolia. Est-ce que vous travaillez avec des entreprises privées, des collectivités locales, des acteurs indépendants?
Effectivement, c'est un marché qui est très diversifié. Notre enjeu est vraiment d'être le maillon manquant entre les grands opérateurs de déchets, qui sont soit des grandes entreprises privées, soit des collectivités locales, et les grands énergéticiens. Donc nous achetons le gaz au premier, nous investissons, nous développons et nous exploitons les Waga Box pour épurer ce gaz, et nous vendons le biométhane une fois purifié aux énergéticiens en l'injectant dans les réseaux de gaz naturel.
Qui rachète le gaz une fois qu'il est transformé?
Alors ce sont encore une fois les grands industriels, les grands énergéticiens, comme Engie, Total, etc., ou des institutions. Nous vendons le gaz à l'Université de Californie, à des grands majors de l'oil and gas, à des industriels divers et variés qui veulent décarboner en fait leur production.
Quelle proportion est reversée aux propriétaires de la décharge? Est-ce que vous percevez une commission? Comment est réparti l'argent de la vente de ce gaz?
Alors, il faut déjà voir que c'est une création de valeur absolue, puisqu'au départ, c'est une pollution qui a des nuisances à la fois climatiques et olfactives. Et la rétribution, on va partager un pourcentage de notre chiffre d'affaires qui va être variable en fonction de la taille du site, de la valeur de la vente du biométhane. Ce pourcentage, ça peut aller de 10 jusqu'à 50% de nos recettes.
La transition énergétique n'est pas la priorité du nouveau président américain, on l'a bien compris. La Commission européenne a détricoté en partie son pacte vert pour des raisons de simplification. Est-ce que vous redoutez un retour en arrière sur les questions environnementales ?
Alors, c'est sûr qu'il faut rester adaptable, mais non, parce qu'il y a des tendances de fond. On l'a vu avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Nous avons besoin d'énergie locale, renouvelable, et même l'administration Trump n'a jamais remis en question le développement des biofuels, c'est-à-dire des carburants issus de biomasse. Comme nous produisons cette énergie à partir d'une ressource qui est un déchet, qui est une énergie façale, à ce stade, nous avons un développement qui est extrêmement dynamique, y compris en Amérique du Nord, où 90% de nos usines sont en cours de construction. Depuis l'élection de Trump, nous avons encore signé 4 contrats aux États-Unis.
Alors justement, vous venez de le dire, vous êtes présent aux États-Unis. Est-ce que vous redoutez l'impact de la guerre commerciale sur votre activité?
Pas vraiment, parce que c'est une énergie, encore une fois, qui est locale. Et nos Wagabox sont fabriqués en partie localement et en partie à Grenoble. Les frais de douane sont apparus, ont disparu. Si jamais, de manière pérenne, il devait y avoir effectivement des frais de douane, alors on pourrait localiser nos constructions à proximité, toujours, de nos sites de production.
Merci beaucoup, Mathieu Lefèvre, d'être venu ce matin sur Radio Classique.
Très bonne journée
PDG
à tous.
De Waga Énergie. 6h20, Natacha Valla nous a rejoint pour les classiques de l'économie. On va parler de l'économie de l'enfance.
Stéphane Pedrazzi sur Radio Classique.
Les classiques de l'économie avec Natacha Valla, bonjour.
Bonjour.
Doyenne de l'école de management de Sciences Po, présidente du Conseil national de productivité. Aujourd'hui, vous nous parlez de l'économie de l'enfance. Quel est le périmètre?
Ça m'a semblé intéressant comme thème, précisément parce qu'il y a plusieurs acceptions de l'économie de l'enfance. L'économie de l'enfance, pour vous et moi, ça veut dire combien me coûte un enfant? Combien ça me coûte en travail non fourni pour mon employeur, en dépenses de santé, en dépenses scolaires? Voilà, il y a cette économie-là, ce que ça représente comme part de la consommation, comment on mesure l'investissement dans le capital humain qui est quand même un enfant. Et puis, il y a une deuxième acception de l'économie de l'enfance qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui, c'est celle de se dire, pour l'économie dans son ensemble, on a occulté un peu cette phase de la vie qui est entre 0 et 3 ans ou 0 et 5 ans. On se dit, voilà, les enfants, on s'en occupe, on développe des institutions, mais tout ce qu'on fait pendant ce temps-là sur la vie de l'individu, on n'a pas beaucoup cherché à mesurer l'impact que ça pouvait avoir sur la société à court, moyenne et brève échéance. Or, il y a des travaux qui ont permis de quantifier ça, et c'est ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui, de quantifier le retour sur investissement, finalement, de toutes ces choses qu'on fait pour améliorer la qualité de vie de l'enfant, améliorer son être comme individu dans la société et son point de départ dans la vie, le point de départ de cette trajectoire qui sera professionnelle, personnelle, émotionnelle, rationnelle.
Alors évidemment, ça n'est pas un investissement à fond perdu, au contraire, c'est le financement de l'économie de demain.
Oui, complètement, complètement. Et en réalité, l'OCDE a produit des chiffres, alors c'est un peu, les données rapidement, c'est peut-être trop rapide, mais vraiment les auditeurs peuvent se référer à ces publication, on considère que des bons investissements dans l'enfance, ou inversement les désavantages socio-économiques subis durant l'enfance, ça coûte, quand ça a été mal fait en quelque sorte, ça coûte, si on met ensemble les coûts de santé et les coûts généraux, 3,5% de PIB chaque année, ce qui est énorme en fait. Alors ça fait des sommes internationales et en réalité on voit qu'il y a eu des travaux, la personne de référence c'est James Heckman, qui a été prix Nobel d'ailleurs pour ça, et qui a démontré que chaque dollar investi dans des programmes de qualité pour la petite enfance, donc c'est vraiment cette tranche des premières années de la vie, ça peut générer, alors je vais vous effrayer un peu, mais un retour sur investissement de 6 à 17 dollars. Donc il dit en gros, si la société investit un dollar dans les programmes de preschooling ou dans ces initiatives-là, on aura en termes de performance scolaire, de criminalité, de santé, de revenus à l'âge adulte, tout cet ensemble, on pourrait y revenir de façon plus détaillée, un vrai retour positif sur l'investissement.
Pourquoi est-ce que tous les pays n'investissent pas dans le préscolaire?
Il y a plusieurs raisons. D'abord, je pense que la raison principale, c'est qu'il y a une question de moyens, bien sûr. Quand on met des priorités, parfois, de façon, j'allais dire, un peu maladroite, on a envie de pousser son système productif sur un avantage comparatif. On a envie de faire, en ce moment, on va faire de la défense. Voilà, peut-être qu'on va, ça va se faire au détriment de ces investissements sur le futur. Donc, il faudra voir dans 10-15 ans quels en seront les résultats. Et puis, je pense qu'il y a un manque de synchronisation entre le cycle politique qui est très court et le rendement de ces investissements qui durent forcément sur des périodes de 15-20 ans. Donc c'est vraiment une désadéquation des rendements et puis aussi une lisibilité moins facile de ce que ces coûts évités peuvent représenter pour l'économie dans son ensemble.
Et en matière de bonnes pratiques, les experts nous disent qu'il faudrait s'inspirer des recettes nordiques.
Oui, complètement. Alors les recettes nordiques, c'est la Suède, le Danemark et la Norvège, c'est la mise en place de programmes universels. Et encore une fois, depuis l'âge zéro. Et ces programmes universels, ils intègrent des dimensions éducatives et des dimensions de santé. Et ça, ça a vraiment, vraiment porté ses fruits. En France, on a l'école maternelle. Quand même, le fait d'avoir une école obligatoire dès l'âge de 3 ans, ça crée une différence. Et ça crée une différence pas seulement en matière d'égalité à l'accès de la chose scolaire, mais il y a une différence qui se mesure à court terme, à moyen terme et à long terme. À court terme, c'est sur la socialisation de l'individu, sur l'acquisition du langage. On ne va pas introduire la thématique du numérique des tablettes parce que ça s'inscrit aussi dans cette dimension-là. Dimension comportementale du tout petit enfant. À moyen terme, on observe moins de redoublement, une réussite scolaire plus importante. Et à long terme, et c'est ça vraiment le plus intéressant, je trouve, un effet très positif sur la criminalité, enfin négatif sur la criminalité, donc positif sur la qualité de la société, positif sur le revenu individuel et sur la santé, et donc moindre effet sur les dépenses de santé qui seront moindres.
Merci beaucoup Natacha Valla, on se retrouve demain. Tout au long de la semaine, Radio Classique vous présente les concerts du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, ce soir à 20h30 au Grand Théâtre de Provence. Les Vêpres de la Vierge de Claudio Monteverdi par l'ensemble Igemelli et dirigé par Emiliano González Toro. Ce concert sera diffusé en direct ce soir sur Radio Classique. Je vous propose d'écouter un extrait des Vêpres de la Vierge avec l'Ave Maria Stella.
Thank you.
L'Ave Maristella des Vêpres de la Vierge de Claudio Monteverdi qui seront données ce soir à 20h30 au Grand Théâtre de Provence dans le cadre du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Ce concert sera diffusé en direct ce soir sur Radio Classique. Dans un instant, le journal de 6h30, juste après l'esprit des mots avec Luc Ferry. À 6h50, le chiffre du jour, 3%. C'est le taux des crédits immobiliers pour un bon dossier sur une durée de 20 ans. On était pratiquement à 4,5% au début de l'année dernière. Est-ce que cette nouvelle baisse de taux de la BCE attendue dans les prochains jours va encore faire baisser les taux des crédits immobiliers? Réponse avec Ludovic Usieux d'Artemis Courtage. Il sera avec nous juste avant le journal de 7h. La météo. Bonjour Charles Bonner.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Le temps reste instable aujourd'hui.
Ce matin d'abord des Pyrénées au Grand Est avec des orages près de la Méditerranée. Dans l'Ouest et le Nord, le calme revient. Ce sera une alternance entre passages nuageux et éclaircies. Les températures au meilleur de la journée, 15 à Lille et Nantes, 16 à Paris, 10 à Dijon, 11 à Aurillac et 15 à Marseille.
6h, 7h, la matinale écho de Radio Classique. Avec Stéphane Pedrazzi.
Et avec Charles Bonner pour le journal de 6h30.
Avec à la une ce matin, la guerre de Donald Trump contre les universités, symbole de résistance face au nouveau président. Le retour de la tension entre la France et l'Algérie. Chacun expulse des agents consulaires. Et l'écrivain Yasmina Kadra en appelle à la diplomatie sur Radio Classique. Et puis le Vatican ouvre la voie à une béatification d'Antoni Gaudi, l'architecte de la Sagrada Familia de Barcelone.
40 milliards d'euros d'économies dans le cadre du budget 2026. L'objectif est ambitieux, mais il est atteignable, estime Amélie de Montchalin. Dans le journal de l'économie, nous reviendrons sur l'exemple de l'Espagne et du Canada qui se sont nettement désendettés. Donald Trump continue de menacer Harvard.
On vous en parlait hier, cette guerre idéologique, culturelle que mène le président américain contre les universités américaines. Censure des mots, licenciements, coupes budgétaires. Le conflit se concentre principalement sur Harvard qui a refusé les demandes de Donald Trump, qui en réponse a gelé plus de 2 milliards de dollars de subventions et menace désormais de lui retirer ses avantages fiscaux. Des menaces qui pèsent finalement sur toute les universités qui voudraient lui résister, Lucie Dupressoir.
L'argument officiel de Donald Trump, c'est la lutte contre l'antisémitisme qui gangrènerait les universités depuis le 7 octobre. Romain Huret, historien des États-Unis à l'école des hautes études en sciences sociales.
L'an dernier, beaucoup d'universités ont été occupées et Trump, ses conseillers, y ont vu un nouveau stade dans l'évolution très inquiétante des universités porteurs d'une idéologie qu'ils appellent le wokisme. Et cette idéologie serait contraire aux valeurs états-uniennes.
Et l'administration cherche à imposer une idéologie conservatrice à la gloire des États-Unis.
Ils veulent des savoirs plus positifs et qui défendent le pays et pas une histoire violente contre les Amérindiens, contre les Afro-Américains. Il y a un combat culturel et les conservateurs espèrent bien le gagner, soit en diminuant le pouvoir de ces immenses universités du pays, soit en créant des nouvelles universités qui pourraient former autrement les jeunes esprits dans les décennies à venir.
Au risque de faire courir les universités à leur perte, prévient Alexis Pichard, docteur en civilisation américaine.
L'Amérique ne va pas retrouver sa grandeur, mais elle va s'engager sur le chemin de la décadence. La décadence intellectuelle, la décadence universitaire, la décadence morale et la perte de prestige qui enveloppait les États-Unis.
Avec le danger aussi de détourner les donateurs conservateurs des universités qu'ils financent très largement.
Et il n'avait pas parlé depuis son départ de la Maison-Blanche. Joe Biden s'est exprimé hier, un discours dans lequel il s'est attaqué à Donald Trump, l'accusant de destruction de la sécurité sociale, le système de retraite américain, pour offrir, je cite, des baisses d'impôts aux milliardaires.
La tension reprend entre la France et l'Algérie.
Et l'espoir d'une reprise du dialogue après l'appel entre présidents fin mars, rapidement douché après l'expulsion par le pouvoir algérien de 12 agents consulaires français, la France a décidé de répliquer. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, était aux 20h de TF1 hier.
C'est une mesure de protestation, d'opposition, si l'on peut dire, à la mesure qui a été prise par l'Algérie et qui est très regrettable parce qu'elle compromet le dialogue que nous avions réinitié. Les autorités algériennes ont fait le choix de l'escalade. Et donc, nous répliquons avec fermeté, avec la plus stricte réciprocité. 12 fonctionnaires français de notre ambassade à Alger ont été expulsés. Nous expulsons 12 agents algériens de leur réseau diplomatique et consulaire.
Et Emmanuel Macron a rappelé l'ambassadeur français à Alger pour consultation. Cette politique du rapport de force, elle était défendue par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Il est d'ailleurs visé directement dans les discours du pouvoir algérien. Un rapport de force entre dirigeants politiques qui ne reflète pas forcément les liens entre les deux pays. Une sorte d'agacement comme celui de Yasmina Kadra, l'un des auteurs francophones les plus lus au monde. Et ce matin sur Radio Classique, il appelle au dialogue.
Je crois qu'on est dans une sorte de dialogue de sourds, dans cette spirale qui ne profite à personne, ni à la France, ni à l'Algérie. On est tous les deux perdants, sur toute la ligne. Et je trouve que c'est surtout le gouvernement français, certains ministres qui sont derrière tout ça. Ce sont des gens qui ont prouvé leur incompétence et qui, au lieu de trouver des solutions pour les Français, ils leur proposent un coupable. Et le coupable désigné, c'est l'Algérie. Il faut qu'il y ait une discipline d'abord dans le gouvernement français. Comment expliquer que d'un côté, le président de la République, Macron, essaye d'arranger les choses et de l'autre, il y a un ministre de l'Intérieur qui fout tout en l'air. Il y a une insubordination caractérisée au sein même du gouvernement. Je crois que le président Macron n'a plus autorité sur son gouvernement, c'est tout. Et ça, c'est très dangereux. Je trouve que l'Algérie aussi, elle réagit très très mal. Normalement, l'Algérie aussi ne doit pas tomber dans le piège de la provocation. Il faut prendre une certaine hauteur. Et il est impératif pour nous de revenir à la raison. Tout ce conflit ne mène à rien. Je trouve qu'on est en train de perdre beaucoup de temps. La France et l'Algérie se doivent de se réconcilier le plus tôt possible, ne serait-ce que par respect pour les deux peuples, nos deux peuples.
L'appel à la diplomatie de Yasmina Kadra au micro Radio Classique de Lauriane Toulmont. Le parquet national antiterroriste se saisit de cette série d'attaques contre des prisons depuis dimanche, des établissements visés, incendies, tags et même tirs de Kalachnikov à Toulon. Pas de revendication claire, une signature DDPF pour droit des prisonniers français. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, pointe la responsabilité des narcotrafiquants. Cela a été d'ailleurs prévisible pour Étienne Blanc. Il est rapporteur de la commission d'enquête sénatoriale sur le narcotrafic.
Ça a commencé comme ça au Mexique. Donc quand les magistrats mexicains sont venus en France et qu'ils ont dit « Attention les Français, vous dérivez vers ce que l'on appelle un narco-État », ben ils ne se sont pas trompés. Ça fait des années que les bien-pensants nous expliquent qu'il ne faut pas fouiller les prisonniers. Ça fait des années qu'on dit qu'il ne faut pas être sévère. Ouais, on peut, mais c'est une question de volonté. Et le jour où vous arrêtez le coupable, vous lui mettez 15 ans. C'est ça la réalité. C'est ce qu'ont fait les Italiens, c'est ce qu'ont fait les Américains. Mais je vous dis attention, parce que là, ce sont les agents de la pénitentiaire. Mais demain, ce sont les juges qui seront menacés et qui se feront tirer dessus.
Étienne Blanc avec Nina Valette. La vérité permet d'agir, c'est le slogan choisi hier par François Bayrou pour son état des lieux des finances publiques dans le rouge. Les premières orientations du budget 2026 seront présentées avant le 14 juillet.
6h36 sur Radio Classique, la contestation des étudiants prend de l'ampleur en Serbie.
Hier, ils ont bloqué les accès aux locaux de la télévision et de la radio publique à Belgrade, capitale de ce pays des Balkans. Candidat à l'Union européenne, mais ouvertement pro-russe, et depuis novembre, en proie à des manifestations contre la corruption, Servane de Pastre.
Depuis 5 mois, la pression est constante sur les dirigeants serbes. Des manifestations ont lieu presque tous les jours, dans les villes, mais aussi dans les campagnes, pour dénoncer la corruption à tous les étages du pouvoir. Le 15 mars dernier, 300 000 personnes étaient dans les rues à Belgrade, la capitale, un chiffre jamais atteint dans l'histoire du pays. À l'origine de cette mobilisation, un accident mortel le 1er novembre dernier. Le toit d'une gare à Novi Sad, dans le nord du pays, s'est effondré, faisant une dizaine de morts. Face à la colère provoquée, le Premier ministre a démissionné fin janvier. De son côté, le président autocrate Aleksandar Vučić essaye de mobiliser ses troupes. Samedi dernier, près de 55 000 personnes sont venues le soutenir dans la capitale serbe. Un rapport de force s'est instauré dans les médias publics qui décrivent les étudiants comme des agents de l'étranger payés par l'opposition. Ces mêmes médias bloqués depuis 2 jours par les étudiants en colère.
Servane de Pastre, la consommation de vin est en baisse, au plus bas depuis 1961. Un nouveau recul, -3% dans le monde l'an dernier, selon les chiffres de l'Organisation mondiale du vin. En France, c'est même plus de 3,5% en un an. 3 ans de négociations, l'Organisation mondiale de la santé annonce un accord sur la préparation et la lutte contre les futures pandémies. Les discussions bloquées principalement sur les transferts de technologies pour la production notamment de vaccins vers les pays pauvres. Le texte exclut toute obligation.
Et puis le Vatican élève Antoni Gaudi au rang de vénérable.
La distinction était projet demandé par le diocèse de Barcelone, où l'architecte a façonné une partie de la ville. Une demande vieille de 20 ans et qui ouvre la voie à sa béatification, Nina Droff.
Surnommé l'architecte de Dieu, Antoni Gaudi a construit et rénové plusieurs bâtisses religieuses, avec comme point culminant bien sûr la cathédrale de la Sagrada Familia, dont l'architecture est un hommage grandiose à la vie du Christ, comme l'explique Isabelle Morin-Loutrel, historienne de l'architecture.
C'est quelqu'un qui connaissait bien les Écritures et qui a permis, à travers la sculpture de la Sagrada Familia, de mettre le focus en fait sur la Sainte Famille. La Vierge et l'enfant sont représentés avec beaucoup d'insistance. Pour lui, il y avait une relation entre la terre et le ciel à faire. Et cette relation, elle se faisait par le biais des tours que l'on élève toujours plus haut, quoi.
Outre ses œuvres, ce titre de vénérable honore aussi la piété de l'artiste.
Gaudi, de son vivant, était quand même quelqu'un d'extrêmement suivi et presque prié, quoi, par toute une population catholique en Catalogne. Lui-même qui était quelqu'un d'une foi chrétienne profonde, il avait une aura quand même déjà très installée.
Mais le chemin vers la béatification de Gaudi est encore long. Ce titre exige la survenue d'un miracle en lien avec l'artiste et un deuxième miracle est nécessaire pour être élevé au rang de saint.
Et Barcelone, on l'associe également à son club de football. Le Barça qualifié hier pour la demi-finale de Ligue des Champions contre Dortmund. Qualification également dans la douleur du Paris Saint-Germain contre Aston Villa.
Merci beaucoup Charles Bonner. On parlera également de football dans le journal de l'économie. Les clubs français sont-ils menacés par une nouvelle crise financière après l'échec des négociations entre la Ligue de football professionnel et DAZN, le diffuseur de la Ligue 1? On y revient en détail dans quelques minutes. Juste avant, Luc Ferry sera avec nous pour l'esprit des mots. Et juste après, à 6h50, ce sera le chiffre du jour. Comme tous les matins, on parlera de crédit immobilier.
La matinale écho de Radio Classique avec Stéphane Pedrazzi.
Bonjour mon cher Stéphane, je ne sais pas si vous avez joué dans un Orphéon, mais il paraît que Wagner, lui, avait joué son premier opéra, notamment l'ouverture de Rienzi, dans un Orphéon. Je vais vous siffler l'ouverture de Rienzi, donc je me ridiculise, mais c'est pour rire. Ça continue comme ça, et c'est pas le meilleur opéra de Wagner. Ça ressemble en effet à ces petites fanfares qu'on joue dans les Orphéons. Vous avez les Orphéons, c'est ces petits belvédères, si on peut dire, qu'on trouve, ces petits théâtres, si vous voulez, à colonnes, qu'on trouve dans les jardins publics. Il y en a encore, par exemple, au jardin du Luxembourg. On en trouve encore dans les jardins parisiens, et puis aussi en province, évidemment. Et c'est là que les fanfares s'installaient pour délivrer la musique. Alors, voilà, Orphée est le musicien le plus grand musicien, supérieur même à Apollon, dit-on dans la mythologie grecque, parce que c'est le fils de Calliope, c'est le fils d'une des 9 muses. Et donc, il a participé évidemment à l'expédition des Argonautes. C'est lui qui a réussi à endormir les sirènes avec son chant qui surpasse celui des sirènes. Alors, on trouve sa description dans les Géorgiques de Virgile surtout, mais aussi dans Ovide. Et comme vous le savez, parce que là aussi, la musique a été prolixe sur le sujet, la musique d'Orphée, Eurydice. Il est tombé fou amoureux d'une sublime jeune femme, Eurydice. Et malheureusement pour lui, cette jeune femme va mourir dans des conditions abominables, parce qu'elle est poursuivie par un méchant qui s'appelle Aristée, qui veut la violer. Elle court comme une folle. Elle ne regarde pas où elle met les pieds. Elle met le pied sur une vipère et cette vipère la mord. Et elle va immédiatement en mourir. Et elle se retrouve évidemment aux enfers. Et aux enfers, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est que Orphée va aller voir Perséphone et Hadès. Donc Perséphone, c'est la reine des enfers, c'est la femme d'Hadès, pour les supplier, surtout elle, d'être sensible à son amour et de laisser sortir Eurydice de cet enfer. Et c'est comme ça qu'on va avoir dans la littérature musicale, si je puis dire, dans l'histoire de la musique, quantité d'œuvres qui sont consacrées au chant d'Orphée, essayant de réclamer qu'on lui rende son Eurydice qui est pour l'instant enfermé dans les enfers. Alors, comment il a réussi à la sortir des enfers? En fait, il ne réussira pas, il va rater. Et ça, c'est une autre histoire que peut-être je vous raconterai un jour.
Merci beaucoup. Merci beaucoup Luc Ferry, on se retrouve demain à 8h15 ce matin. Marc Bourreau recevra l'économiste Christian Deboissieu pour parler de la guerre des devises qui est en train de se mettre en place. Dans un instant, le journal de l'économie, il est 6h43 sur Radio Classique.
Bonjour, c'est Elodie Fondacci. Que diriez-vous d'une nouvelle histoire pour les vacances? Il était une fois une jeune fille appelée Blanche-Neige qui fuyait une méchante sorcière. Elle trouva refuge
dans une minuscule maison, habitée par 77 nains.
Découvrez Blanche-Neige et les 77 nains, la nouvelle histoire en musique d'Élodie Fondacci. Un livre de David Ekali à retrouver aux éditions Talent Haut. Disponible pour la première fois en écoute binaurale sur toutes vos plateformes habituelles.
Le journal de l'économie avec Stéphane Pedrazzi.
Avec Natran, opérateur national de transport de gaz.
Trois titres à la une de l'économie ce matin. 40 milliards d'euros d'économie. François Bayrou a présenté l'objectif du budget 2026. Les collectivités et les parlementaires sont invités à faire des propositions. Les Français ne travaillent pas suffisamment. La productivité a décroché depuis la crise du Covid. Le Conseil national de productivité appelle à un sursaut. Et puis le foot français est-il menacé par une nouvelle crise financière après l'échec des négociations entre la Ligue de football professionnel et son diffuseur DAZN. On y revient avec notre invité dans ce journal. Nous n'avons pas le choix, il faut ouvrir les yeux. Le Premier ministre François Bayrou a réuni hier son premier comité d'alerte sur les finances publiques. Il a dressé un sombre constat de l'économie française. Elle ne produit pas assez, ne travaille pas suffisamment. Les collectivités et les parlementaires vont devoir faire des propositions avant la rentrée et la préparation officielle du budget 2026. C'est une nouvelle méthode saluée par Jean-François Husson, sénateur Les Républicains. Il est rapporteur général de la Commission des finances.
Au Sénat, on a prévu 3 mois de travail intense puisque nous allons, pour le début de l'été, rendre une copie de propositions en travaillant, évidemment, avec la Commission des finances, mais aussi la Commission des affaires sociales. Et nous l'avons fait, rappelez-vous, il y a 2 ans au Sénat, on a proposé un budget avec 7 milliards d'économies. Ça ne s'était jamais vu de la part à l'époque d'une opposition. Si on peut, il faut faire remonter les idées sans attendre des comptes dégradés ou des mauvaises décisions.
Si le gouvernement veut respecter son objectif de réduction du déficit, il va falloir réaliser 40 milliards d'euros d'économies dans le cadre du budget de l'année prochaine. Objectif ambitieux, mais toutefois atteignable, estime Amélie de Montchalin. Ce que nous avons à faire, d'autres pays l'ont réussi, a expliqué hier la ministre des Comptes publics. Elle a notamment cité l'exemple de l'Espagne, qui ces dernières années a réussi à se désendetter de manière spectaculaire, Zoé Palier.
Oui, et elle revient de loin. En 2011, la bulle immobilière explose et met à terre l'économie espagnole. Le coût de la dette s'envole. Le Premier ministre choisit alors l'austérité. Gel des salaires, suppression de postes dans la fonction publique, baisse des indemnités chômage. Les classes moyennes trinquent, mais le gouvernement remplit son objectif de 40 milliards d'euros d'économie en 2012. Même pays, autre époque. Après le Covid, l'Espagne est à nouveau très endettée, mais son déficit passe de 6,6% du PIB en 2021 à 2,8% seulement l'an dernier. Cette fois-ci, pas d'austérité, mais une forte croissance avec une industrie compétitive, un coût du travail inférieur à la moyenne européenne et l'explosion du tourisme.
Et le Premier ministre Zoé Palier a également cité l'exemple du Canada.
En 1993, le déficit public au Canada atteint 5%, le même ordre de grandeur donc qu'en France aujourd'hui. Le pays se lance alors dans une revue de toutes les dépenses publiques. Chaque ministère doit répondre à une série de questions, par exemple, votre activité sert-elle l'intérêt général ou encore, quelle mission pourriez-vous transférer au secteur privé ? Méthode radicale, avec à la clé une baisse de dépenses de 70% pour les transports, par exemple, ou encore de 33% pour le ministère de l'Environnement.
Et pour atteindre son objectif, la France va notamment devoir augmenter sa productivité. Dans son dernier rapport, le Conseil national de la productivité estime qu'il y a urgence. La pandémie a cassé le moteur et jusqu'à présent, nous n'avons pas réussi à retrouver les niveaux d'avant Covid, contrairement à nos principaux partenaires européens. Selon le Conseil national de productivité, il faut miser avant tout sur l'innovation, Éric Kioch.
Ce qui plombe notre productivité, c'est d'abord notre désindustrialisation. Le secteur manufacturier ne représente plus que 10% de notre PIB, contre 16,5% en 2000. Ensuite, les politiques de préservation de l'emploi, notamment durant la pandémie, ont contribué à plomber les statistiques, souligne le rapport du Conseil national de la productivité. Sa présidente, qui est aussi notre chroniqueuse, Natacha Valla.
Contrairement aux autres pays européens, chaque heure travaillée est moins productive et on travaille moins d'heures. Donc ces deux facteurs se renforcent l'un l'autre dans notre pays.
À court terme, l'essor de l'apprentissage tire la productivité française vers le bas. Mais à long terme, cette stratégie devrait au contraire la doper. Et d'autres leviers pourraient permettre à la France de se remettre en selle. L'industrie a beaucoup investi dans l'automatisation et la robotisation, mais ces moyens pourraient être mieux utilisés, poursuit l'économiste.
Si on avait plus d'investissements du côté data, l'exploitation de la donnée et l'intelligence artificielle, ça rentrerait en complémentarité avec l'automatisation. Elle n'est pas en mesure de déployer son plein potentiel aujourd'hui.
Pour investir, le Conseil national de la productivité suggère une meilleure orientation des aides à l'innovation comme le crédit impôt recherche ou encore une mobilisation plus forte des 600 milliards d'épargne disponibles en France.
Le foot français est-il menacé par une nouvelle crise financière ? La Ligue de football professionnel et le Britannique DAZN, principal diffuseur de la Ligue 1, n'ont pas réussi à se mettre d'accord malgré une médiation organisée par le tribunal de commerce. La LFP souhaite mettre un terme au contrat de diffusion dès la fin de la saison et propose une indemnité comprise entre 110 et 125 millions d'euros. L'offre a été refusée par DAZN qui souhaite poursuivre le contrat prévu jusqu'en 2029, sauf en cas de clause de sortie l'an prochain, mais avec de meilleures indemnités. Luc Arondel est en ligne avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Chercheur au CNRS, spécialiste de l'économie du sport, professeur à l'école d'économie de Paris. Pas d'accord entre DAZN et la LFP. Quelles sont maintenant les prochaines étapes ?
Alors, le problème, c'est qu'il y a, pour l'instant, il n'y a encore pas d'accord. De toute façon, le DAZN n'a pas accepté la volonté de rupture de la Ligue. Donc, effectivement, de toute façon, l'affaire n'est pas terminée. Mais ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est qu'effectivement, la Ligue veut arrêter son contrat de diffusion avec DAZN, donc il va devoir trouver une autre solution. Mais de toute façon, étant donné qu'il y a un contrat, de toute façon, le contrat ne peut pas être rompu comme ça de manière unilatérale. Donc de toute façon, on se dirige vers d'autres tractations entre les deux parties, quoi. Mais je pense que la collaboration entre DAZN et la Ligue est terminée, de toute façon.
Quelles peuvent être les conséquences pour l'économie du foot professionnel ? Est-ce qu'on doit s'attendre à une nouvelle baisse du montant des droits de diffusion télé reversés au club ?
Ah bah oui, alors, bon, ces dernières années, les droits TV domestiques, les droits TV de la Ligue 1, ça représentait à peu près 20% du budget, en moyenne, du budget des clubs. Donc ça veut dire que ce qu'il y avait à peu près, les clubs se répartissaient à peu près 500 millions d'euros. Donc Mediapro, c'était 1 million. Après, il y a eu DAZN, on était descendu à 500 millions, DAZN et beIN Sport. Donc ça veut dire qu'effectivement, cette enveloppe de 500 millions d'euros va se réduire comme une peau de chagrin. Et que donc, il y a certains clubs, alors tous les clubs ne vont pas être à la même enseigne. Si vous voulez, par exemple, le PSG, c'était les droits domestiques, les droits de Ligue 1, de la Ligue 1 ne représentaient qu'à peine 10% de leur revenus. Mais c'est vrai que, par exemple, un club comme Montpellier ou Lorient dans l'année dernière, les droits télé, ça représentait presque 70% de leur budget. Donc vous voyez, effectivement, pour ces petits clubs, les petits clubs ou les clubs moyens, la diminution des droits télé va avoir du mal à passer.
Merci beaucoup Luc Arondel, chercheur au CNRS, spécialiste de l'économie du sport. Aux États-Unis, le fabricant de puces Nvidia alerte sur les conséquences de la guerre commerciale. Les restrictions imposées par Donald Trump sur les exportations de microprocesseurs vont lui coûter 5,5 milliards de dollars pour le premier trimestre. Le cours de l'action Nvidia a plongé de plus de 5% hier soir en transactions électroniques hors séance et il entraîne ce matin dans son sillage les places financières asiatiques, moins 2,5% notamment à la bourse de Hong Kong. Après les puces électroniques, Donald Trump vise désormais le secteur de la pharmacie. Le président américain veut faire baisser le prix des médicaments. Il ouvre par ailleurs une enquête sur les importations de produits pharmaceutiques aux États-Unis. Pierre Pilet.
Effectivement, une enquête qui pourrait déboucher sur des droits de douane. Pour le moment, les produits pharmaceutiques n'y sont pas soumis. La conséquence de taxes, ce serait l'augmentation des coûts de nombreux médicaments et de composés chimiques importés. En moyenne, aux États-Unis, un produit sur ordonnance coûte déjà 2,5 fois plus cher qu'en France, par exemple. C'est le résultat d'une étude de la Rand Corporation, une société de conseil. Les patrons de 32 laboratoires pharmaceutiques ont écrit il y a quelques jours à la présidente de la Commission européenne pour empêcher un exode des investissements vers les États-Unis. Ils lancent un avertissement. Ils veulent des mesures audacieuses. Ce qu'ils réclament, c'est notamment une révision de la politique des prix des médicaments en Europe et du changement concernant le cadre réglementaire. Il faut raccourcir le processus prospectus pour les essais cliniques menés dans plusieurs pays, selon ses patrons. Sinon, 16,5 milliards d'euros d'investissements prévus pourraient être transférés hors d'Europe d'ici 3 mois. C'est la menace des dirigeants de Pfizer, Sanofi, Merck ou encore GSK.
Merci beaucoup Pierre Pilet. La croissance de l'économie chinoise a atteint 5,4% au premier trimestre. Le chiffre est supérieur aux attentes. Mais les perspectives s'assombrissent pour les prochains mois. Le Bureau national des statistiques prévient que l'environnement économique mondial va devenir plus complexe et plus difficile. Il appelle les autorités chinoises à en faire davantage pour stimuler la consommation des ménages. 6h53 sur Radio Classique. Le chiffre du jour, 3%, c'est le taux des crédits immobiliers pour un bon dossier sur une durée de 20 ans au niveau national. On était pratiquement à 4,5% au début de l'année dernière. Bonjour Ludovic Cusieux.
Bonjour Stéphane.
Fondateur d'Artemis Courtage, 3% pour un bon dossier. Est-ce que ça veut dire que les meilleurs dossiers peuvent espérer obtenir un taux de crédit inférieur à 3% pour 20 ans ?
On peut encore toucher des taux inférieurs à 3%. Effectivement, ça veut dire que le dossier aura un peu plus d'apport, un peu plus de revenus, un taux d'endettement qui sera très inférieur au sacro-saint 35%. Mais si tous ces indicateurs sont au vert, on peut encore toucher en dessous de 3% taux fixe sur une durée de 20 ans.
Est-ce que 3% pour les bons dossiers, c'est un niveau suffisamment bas pour relancer le marché immobilier ?
Alors c'est d'abord un niveau qui a drastiquement baissé hein, sur la dernière année. Sur les 15 derniers mois, on constate une baisse d'à peu près 1,30. On avait en moyenne touché 4,30, 4,35, toute durée confondue, en janvier 2024. 15 mois après, on est effectivement pour les meilleurs dossiers sur 20 ans à 3% et en moyenne à 3,30.
La Banque Centrale Européenne réunit aujourd'hui et demain son Conseil des gouverneurs. Elle devrait annoncer une nouvelle baisse de ses taux directeurs de 25 points de base. Est-ce que ça veut dire que les taux de crédit immobilier vont continuer de baisser ?
Ça devrait être le cas, mais on est pris en tenaille entre deux indicateurs de référence sur les crédits immobiliers. Effectivement, la tendance long terme, puisque c'est la septième baisse consécutive des taux directeurs de la BCE, la tendance sur le long terme, elle est plutôt baissière, et ça a d'ailleurs emmené dans son sillage la baisse des taux de crédit immobilier. Il y a autre chose qui contrebalance un peu cette euphorie sur la baisse des taux de crédit immobilier, c'est la nervosité des marchés obligataires, qui là, pour le coup, les taux obligataires sont assez nerveux et ça stabilise les taux, ça les a même légèrement augmentés en ce début de mois d'avril.
Et donc c'est bien de le préciser, contrairement à une idée reçue, il n'y a pas de corrélation directe entre la baisse ou la hausse des taux de la BCE et l'évolution des taux de crédit immobilier. Vous êtes un courtier, Artemis Courtage, vous travaillez avec les principales banques. Est-ce qu'aujourd'hui elles accordent facilement un prêt immobilier ou est-ce que les conditions sont plus dures qu'avant la crise sanitaire ?
Ça c'est la grande tendance depuis la rentrée de septembre 2024, c'est que sans exception, toutes les banques sont revenues à la table du crédit immobilier. Elles sont toutes prêteuses pour tout type de dossier et quasiment tout type d'emprunteur. Il y a eu une crise du crédit immobilier qui a duré à peu près 2 ans, de la mi-2022 à la mi-2024. Où parfois dans certains départements, certaines villes, moi j'avais une ou deux banques en concurrence qui étaient un peu légers pour faire mon métier de courtier en crédit immobilier. Aujourd'hui et depuis 6 mois, toutes les banques sont de retour et c'est bon pour les emprunteurs parce que la concurrence est plus accrue sur chacun des dossiers qu'on présente. La condition à tout cela, ça a été effectivement que les taux ont baissé quand même de façon spectaculaire depuis une grosse année maintenant.
Alors justement, est-ce que cette concurrence entre les banques, elle les a poussées à anticiper les futures baisses de taux de la BCE, ce qui voudrait dire qu'aujourd'hui, avec un taux à 3%, on a déjà inclus dedans les prochaines baisses ?
Alors effectivement, il y avait eu déjà un peu ça.
Si on regarde le Euribor, c'est un petit peu l'indication que ça nous donne.
C'est déjà anticipé dans les cours. On est aussi là au début du printemps de l'immobilier. C'est une période haute, une période forte. Globalement, de mars à juillet, c'est là où se fait la majorité des dossiers de l'année, parce que c'est les déménagements qui vont être prévus pour la rentrée scolaire. Et puis pendant quasiment 2 ans, les banques n'avaient plus fait de conquête de clients. On est aussi dans une période où les banques recrutent des clients. On peut le voir, il y a à nouveau des offres commerciales, des offres marketing sur le crédit immobilier dans la rue ou quand on allume sa télévision. Les banques sont de retour et elles prêtent.
Merci beaucoup Ludovic Usieux, fondateur d'Artemis Courtage. À suivre dans un instant la matinale de Marc Bourreau.
À ce stade de la compétition, tout peut arriver. Le parcours d'une équipe peut devenir une épopée. Une rencontre, un classique. Un joueur, une icône.
Cette saison, l'histoire du football s'écrit sur les chaînes Canal+. Suivez les quarts de finale retour de l'UEFA Champions League avec Real Madrid-Arsenal ce soir à 21h sur Canal+. Et l'UEFA Europa League avec Manchester United-Lyon demain à 21h sur Canal+. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
La météo de ce mercredi, il fait un peu plus frais aujourd'hui, Virginie Fulpin.
2 degrés à Rennes ce matin, 8 en Normandie et à Toulouse, 9 à Lille et Biarritz, jusqu'à 14 sur la Côte d'Azur. Cet après-midi, pas plus de 10 degrés à Lyon, 16 à Paris, à Bordeaux et en Corse. Il pleut des Pyrénées à l'Alsace, des orages près de la Méditerranée et des éclaircies sur le quart nord-ouest. Elles vont revenir aussi le long de l'Atlantique dans la journée.
6h58, Marc Bourreau prend le relais jusqu'à 9h pour la matinale de Radio Classique. Bonjour Marc.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
De la monnaie sonnante et trébuchante au programme.
Oui, la guerre des droits de douane, ce n'est pas seulement une affaire de containers et de marchandises. Derrière les séismes de ces dernières semaines se cache une bataille silencieuse. L'avenir du dollar, de l'euro, du yuan chinois, chacun place discrètement ses pions en ce moment. Christian de Boissieux, professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, vice-président du Cercle des économistes, le raconte dans son dernier livre, La nouvelle guerre des monnaies aux éditions Odile Jacob. C'est concis, c'est passionnant. Christian de Boissieux sera là pour nous éclairer ce matin. Il est l'invité de Radio Classique à 8h15. Le piège dangereux de la dette, une France qui ne produit et qui ne travaille pas assez. François Bayrou aux accents churchilliens hier. Nous y reviendrons tout au long de cette matinale avec nos éditorialistes. Enfin, la coupe dans les subventions va-t-elle faire trébucher Harvard aux États-Unis? Bras de fer au sommet avec l'administration Trump après avoir refusé une mise sous tutelle dans sa politique de diversité. Quand la plus vieille université des États-Unis se rebiffe, c'est tout un symbole.